matin dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 3, au verset 14. Voilà, salutations toutes particulières et bienvenue aux visiteurs qui peuvent être parmi nous. S'il y a des personnes qui sont peut-être en congé encore, eh bien que le Seigneur vous bénisse tout particulièrement dans cette journée, en ce lieu. Voilà, Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, nous dit Paul, et bien sûr, il faudrait lire tout ce qui précède, je vous laisse le soin de le faire à la maison. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Voilà. Et j'attire particulièrement votre attention sur le verset 18, où l'apôtre Paul nous déclare qu'il prie, il intercède en faveur des croyants pour qu'ils puissent comprendre quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Nous avons donc là, eh bien, une vue d'ensemble, voyez, les dimensions de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en quatre dimensions, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et nous allons essayer ce matin, si vous voulez bien, de voir ensemble à quoi ces quatre éléments peuvent faire référence. Alors tout d'abord, il est question de la largeur de l'amour de Dieu. Pourquoi l'amour de Dieu est-il large? Parce que l'amour de Dieu s'étend à tous les hommes. Alléluia. Personne n'est rejeté, personne n'est exclu, personne n'est méprisé. Nous connaissons cette parole de Jésus qui dira « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Qui que nous soyons, quelle que soit notre condition, personne n'est oublié. Je lisais hier soir encore ce verset que je connais, que vous connaissez aussi, mais qui m'a fait du bien, où le Seigneur parle des petits oiseaux. Et il dit que pas un n'est oublié devant Dieu, n'est-ce pas? Et il ajoute que nous valons infiniment plus que les petits oiseaux, les passereaux dans le ciel. Et bien sûr, si le Seigneur n'oublie pas un des moineaux qui virevoltent un petit peu de partout, il n'oublie aucun d'entre nous non plus. David dira dans un de ses psaumes, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Et nous savons qu'il y a encore aujourd'hui, hélas, des hommes, des femmes, des enfants qui ont vécu ce drame d'être rejetés, d'être abandonnés par les membres de leur propre famille. Quand bien même ce serait votre cas, sachez que le Seigneur veut vous faire accueil parce qu'il vous aime. L'évangile de Jean, ce verset archi-connu, si souvent cité, Jean 3,16, nous dit que Dieu a tant aimé, qui donc ? Le monde, c'est quoi le monde? Eh bien, le monde, c'est l'humanité tout entière et chacun de ceux qui la composent. L'humanité tout entière et chacun de ceux qui la composent. Et Dieu ne nous a pas aimés simplement en se gargarisant de bons sentiments, mais dans les faits. Hein, l'apôtre Paul dira que ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous sommes ici ce matin parce que le Seigneur s'est intéressé à nous, n'est-ce pas? Avant que nous nous intéressions à lui, alors que nous ne le connaissions pas, chacun dans des circonstances différentes, chacun dans un contexte particulier, Nous étions loin de Dieu, nous étions sans Dieu, comme dit l'Écriture, sans Christ, sans espérance, mais par des chemins divers, fort variés, le Seigneur est venu à notre rencontre. Quelle grâce, parce que dans son amour, eh bien, il a voulu nous sauver, n'est-ce pas? Jésus sur la croix, eh bien, était, nous le savons, crucifié entre deux brigands. Et ainsi, voyez, il était à égale distance de l'un et de l'autre, de l'un et de l'autre. Et comme il avait les bras étendus, eh bien, on peut dire que sa main était tendue vers l'un et sa main était tendue vers l'autre également. À chacun de ces deux brigands, la même occasion a été offerte de saisir la grâce de Dieu, voyez. Parce que Jésus sur la croix, eh bien, a prononcé quelques paroles, 7 très exactement, il n'a pas fait de longs discours, dans la souffrance qui était la sienne, il ne pouvait pas faire de grands sermons, mais ces 7 paroles étaient vraiment ce qu'il fallait entendre pour pouvoir être sauvé. Et ainsi, ces deux hommes, l'un et l'autre, ont été confrontés à la même grâce divine. L'un l'a accepté, l'autre l'a refusé, avec des conséquences diamétralement opposées, c'est vrai, puisque à l'un, Jésus dira, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux, parce que cet homme s'est repenti, a cru, tandis que l'autre, n'est-ce pas, s'est enfermé dans son attitude de rébellion, de révolte, et il fut perdu, quel drame, hein? Et c'est vrai que l'amour de Dieu est à la base de notre salut, mais ça n'exclut pas notre responsabilité personnelle. Le Seigneur ne m'a pas sauvé malgré moi. Il est venu me proposer son salut, et vous aussi, et chacun d'entre nous, il appartient de l'accepter. Ceux qui refusent son amour seront un jour confrontés à la rigueur de sa justice. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans l'épître aux Romains, « La bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Il y a ici quelqu'un ce matin qui vit encore sans Dieu, loin de Dieu, qui vit encore dans le péché. Amis, nous voulons vous dire, de la part du Seigneur, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Parce que si tu demeures avec un cœur impénitent, eh bien l'Écriture dit que tu t'amasses un trésor de colère. Un trésor de colère. La largeur de l'amour de Dieu nous parle aussi de l'étendue de son pardon. C'est formidable le pardon de Dieu. Amen. Nous en avons bénéficié. Regardez les exemples que nous avons dans la Bible. Cette femme pécheresse qui vient pleurer aux pieds de Jésus, c'était une femme de mauvaise vie, c'est vrai. Et Jésus peut lui dire, tes péchés sont pardonnés. Va en paix. On pourrait parler, tenez, du brigand, nous en avons dit deux mots tout à l'heure. De Zachée qui avait fort mauvaise réputation, disait, c'est un homme pécheur. Et nous pourrions parler également de la femme adultère, à laquelle Jésus dira, je ne te commande pas, va et ne pêche plus. Ceux-là, ce que je viens de mentionner, étaient, si je puis dire, de grands pécheurs. Grands, dans le sens que leurs péchés étaient nombreux et particulièrement grossiers. Et ils ont bénéficié, alléluia, du plein pardon. La largeur de l'amour de Dieu a été suffisamment importante pour que la grâce soit manifestée. Mais vous avez aussi dans la Bible des personnages qui avaient, eh bien, une réputation bien plus digne. Un homme comme Nicodème qui est venu voir Jésus un certain soir, un théologien, un homme qui avait une certaine notion des choses de Dieu. Vous avez Joseph d'Arimathée dont l'Écriture dit que c'était un homme bon et juste. C'est pas dit pour tout le monde, ça, bon et juste. Vous avez encore Corneille, le centurion romain, dont il est dit qu'il était pieux, qu'il priait Dieu continuellement, qu'il faisait beaucoup de mal au peuple et qu'il craignait Dieu. Eh bien, ceux-là, voyez-vous, même si c'était des gens excellents, ont eu tout autant besoin que les autres du pardon de Dieu. Peut-être au milieu de nous ce matin, y a-t-il quelqu'un qui se dit, eh bien ma foi, je vois vraiment pas ce que j'ai fait. Oh, quelques pécadis, ce que vous appelez pécadis, la parole de Dieu l'appelle péché. Et parce que c'est péché, vous devez vous en humilier devant Dieu, et la grâce de Dieu vous fera son effet, vous serez pardonner, c'est merveilleux. Ça, c'est la largeur de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Hein? L'Écriture dit dans le psaume 103 que autant l'Orient est éloigné de l'Occident, Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, eh bien, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Nous sommes pardonnés, rachetés, réhabilités, sauvés, rétablis dans une pleine communion avec le Père. Même ceux qui, après leur conversion, hélas, il y en a parfois, se sont à nouveau laissés séduire, piégés par le diable. Si elle est une repentance authentique, il y a un plein renouvellement de la grâce de Dieu. Car, vous le savez, le sang de Jésus purifie de tout péché. De tout péché, ça veut dire ce que j'ai commis avant ma conversion. Et même ce que j'ai eu le tort de commettre après ma conversion. Dieu fait grâce. Attention, c'est pas de la lessive, le sang de Jésus. Dieu ne dit pas, oh, c'est pas grave, hein, tu as commis une faute, mais on va arranger ça, allez, hein, on va faire passer du sang de Jésus, ça ira comme ça. Non, non, non. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque un chrétien qui s'est fourvoyé, eh bien, s'approche en suppliant, en demandant miséricorde, il est pardonné. Alléluia. Ne laissez pas le diable vous accuser. Ne laissez pas vous, le diable. Vous rappelez constamment ce que vous avez fait, quand bien même vous l'auriez fait étant chrétien, si vous vous êtes repenti, si vous avez fléchi le genou devant lui en disant « Père, je te demande pardon de tout mon cœur », il a fait grâce et l'affaire est réglée, c'est la largeur de l'amour de Dieu. Et puis, ensuite, il est question de la longueur de cet amour. La longueur de l'amour de Dieu nous parle de sa longue patience. Vous savez que Dieu est patient ? Est-ce que vous êtes patient, vous ? Vas-y, il faut que vous soyez patient, parce que c'est le fruit de l'esprit. Pourquoi vous dites non ? Vous avez un peu de patience, j'espère, mais cette patience, elle doit, et la mienne aussi, grandir. Hein ? Il ne peut pas en être autrement. En tout cas, en ce qui concerne l'amour de Dieu, eh bien, il est dit que la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, qui a duré un siècle et quelques, hein? La patience de Dieu se prolongeait. Vous savez, aujourd'hui, l'arche, c'est quoi l'arche? Eh bien, on pourrait dire, d'une manière symbolique, que l'arche, c'est un petit peu l'image de l'Église, voyez, hein? Il est écrit dans Actes chapitre 2, verset 47, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand on est sauvé, on entre dans l'arche, pardon, on entre dans l'Église. On entre dans l'Église et... si la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, la patience de Dieu se prolonge pendant la construction de l'Église. Parce que l'Église est en construction. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et lorsque cet édifice spirituel, lorsque les pierres vivantes, n'est-ce pas, seront les unes après les autres ajoutées à l'édifice, alors le Seigneur viendra la chercher. Et c'est le temps de la patience de Dieu, le temps de la patience de Dieu. Il faut la mettre à profit. L'Écriture dit que la patience de Dieu, c'est notre salut. Il est écrit également que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. À l'égard de la patience, l'apôtre Paul emploie une expression un petit peu particulière, en tout cas nous trouvons ça dans... l'épître à Timothée, dans la version seconde, il dit ceci, je rends grâce à Dieu, hein, à Jésus-Christ notre Seigneur, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde. Il dit ça, associé un petit peu plus loin, j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité. Qu'est-ce que c'est que la longanimité de Dieu ? Ben, c'est sa patience. Littéralement, le terme signifie la longueur d'âme. Vous voyez, c'est beau ça, la longueur d'âme. Hein? Dieu a une grande âme, si nous pouvons nous exprimer ainsi. Tellement longue sa patience que, alors qu'il aurait pu, régler son compte à cet homme, Saul de Tarse, qui était un persécuteur, qui était un incrédule orgueilleux, alors qu'il aurait pu le détruire, eh bien Dieu ne l'a pas fait, parce que Dieu est lent à la colère, alléluia, et il se plaît à la miséricorde. Et Paul, là, dans le passage que je viens de vous citer, à deux reprises, dit ceci, c'est comme un cri de victoire et de reconnaissance, j'ai obtenu miséricorde, alléluia. Eh bien, moi aussi, j'ai obtenu miséricorde, et vous également. Dieu a été patient à mon égard. Souvenez-vous peut-être de ces longues années où vous avez vécu loin de lui, sans lui, peut-être certains même vous avez tendu le poing contre le ciel. Peut-être vous avez dit, Dieu, je n'en ai pas besoin. Ah, il aurait pu vous terrasser, il aurait pu faire de vous une petite cendre, mais il ne l'a pas fait. Il a usé de patience, c'est son amour qui a fait cela. L'amour de Dieu, la longueur de l'amour de Dieu. Vous savez, il faut se souvenir de la patience de Dieu, toujours. Toujours. Il faut se souvenir de la patience de Dieu, dont Dieu fait preuve à notre égard et dont il continue à faire preuve. Parce que, quand on se souvient de la patience de Dieu, eh bien, on est enclin à user de patience avec les autres. Hein? Je ne comprends pas que des fois, on en soit si dur, si sévère, si exigeant. C'est vrai qu'il faut une certaine rigueur, et même une rigueur certaine à l'égard du péché. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais aussi, soyons miséricordieux et patients. Bannissons de nos cœurs l'irritation, la colère, l'esprit vindicatif, irascible. C'est charnel, ça. Il faut l'expulser de notre vie. Il ne faut pas s'en tirer par une pirouette en disant « Que voulez-vous ? C'est mon caractère. Il ne faut pas m'en vouloir. » Non, c'est ton caractère, c'est le mien. Mais le Seigneur l'a vaincu, ce caractère-là. Il a été crucifié à la croix du calvaire. Il n'y a pas que les gros péchés qui ont été crucifiés, que l'adultère, le meurtre et le vol. Mais il y a aussi, eh bien, ces traits de caractère que nous pouvons avoir les uns et les autres qui sont tellement déplaisants. Eh bien, il ne faut pas dire, mais non, ça n'a guère d'importance, vous savez, ce n'est pas pour si peu que Dieu va m'envoyer en enfer, certainement pas. Mais, Seigneur, ta patience, qui est une preuve de ton amour, je veux qu'elle soit reflétée dans ma propre vie. Alléluia. Le Seigneur est capable pour vous, pour moi, en vous disant cela, je m'inclus de le faire. Alléluia. La longueur de l'amour de Dieu, sa patience, sa miséricorde. Seigneur, rends-moi comme toi. Amen. Tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà pour la longueur de l'amour de Dieu. Et puis le texte nous parle aussi de la profondeur de l'amour de Dieu. Alors, pour parler de la profondeur de l'amour de Dieu me rappelle combien Jésus a dû profondément s'abaisser, s'humilier pour venir nous sauver. Dans quel abîme de souffrance Jésus a dû descendre pour assurer notre salut. Souffrance physique, c'est vrai. C'est peut-être ce qui nous impressionne le plus quand on pense à la croix, n'est-ce pas ? Ses chairs meurtries, déchirées par les clous qu'on enfonce dans les mains, dans les pieds du Seigneur, son dos, n'est-ce pas, lacéré par la flagellation qu'il a subie avant d'être crucifié. C'était un supplice affreux. Les historiens nous disent que certains, comme on n'avait même pas le temps de les crucifier, ils mouraient au cours de la flagellation, tellement le châtiment était rude, n'est-ce pas ? Et les soldats romains qui s'y sont appliqués, si je puis dire, n'y ont pas été de main morte. Vous le comprenez, voyez ? C'était quelque chose d'affreux. Et puis, il y a eu son front couronné d'épines. Et puis, la langue du soldat qui a percé son côté. Alors, bien sûr, quand on pense à cela, on est ému, on était moustifié, on dit, Seigneur, comme tu as dû souffrir, c'est vrai. Mais il me semble que là n'est pas le plus terrible. Parce qu'après tout, disons les choses comme elles sont. Certains ont souffert physiquement parlant, au moins autant que lui. Vous savez, la crucifixion, nous, ça nous impressionne. À l'époque, ça n'impressionnait pas les gens. C'était tellement courant. Les conquérants qui ont envahi certains pays, c'est pas, ont crucifié des gens par centaines, même par milliers. On dit que certaines régions étaient littéralement déboisées, tant de gens ont été crucifiés. C'était une pratique courante. Mais concernant Jésus, il y a eu la souffrance morale. Dans le jardin de Gethsémané, il a voulu s'entourer de quelques disciples. Ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que de dormir. Pourtant, il leur avait dit, priez, restez avec moi. Priez, parce que mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce que vous avez analysé cette pensée ? L'âme de Jésus, son être intérieur, sa psychologie intime, si je puis dire. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il commença, nous dit le texte, à éprouver de la frayeur et des angoisses. Lui, qui ne tremblait devant rien ni personne, à cette perspective de la croix, pas seulement la douleur, la souffrance physique, mais le fait de devoir se charger du péché de l'humanité tout entière, en son âme pure et sainte. Oui, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses, la souffrance physique, la souffrance morale, et même la souffrance spirituelle. Là, sur la croix, il y a eu cette parole terrible, parole prophétique qui s'accomplissait, n'est-ce pas ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Vous avez remarqué que Jésus n'a pas dit « mon Père », il a dit « mon Dieu ». Il était là chargé de la colère divine, oui, de la colère divine, car le châtiment du péché, c'est la mort. Vous savez, la croix, c'est pas un spectacle, sans une lumière. Même si certains en ont fait des films à grand spectacle, la croix, c'est le Fils de Dieu qui se charge de notre péché. Il fait ça pas pour nous impressionner, pas pour exciter notre pitié, notre compassion à son égard. Les filles de Jérusalem se sont frappées la poitrine à propos de cet homme encore jeune qui allait mourir. Il s'est tourné vers elle en disant « Ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. Votre pitié a bon marché, je n'en veux pas. » Il s'est chargé de la colère qui aurait dû tomber sur nous. C'est pourquoi qu'Ésaïe le prophète dira « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Vous voyez, Jésus sur la croix, eh bien, était l'objet du courroux divin. Il était un petit peu, comment dire ça, comme un paratonnerre. Vous savez, un paratonnerre que l'on met au sommet d'un édifice, il attire vers lui la foudre pour que l'édifice qui est en dessous soit épargné, protégé. Eh bien, Jésus sur la croix a attiré sur sa personne la colère de Dieu pour qu'elle ne nous frappe pas alors que nous la méritions. Il a accepté de se charger de nos péchés. Esaïe dira, l'Éternel a fait retomber sur lui le péché de nous tous. Dites-moi, rien que mon péché, ça fait déjà un bon paquet. Le vôtre additionné, plus celui de l'humanité tout entière, depuis le péché d'Adam et Ève jusqu'au péché de celui qui naîtra le dernier sur la face de cette terre. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Voilà, mes amis, en quel abîme Jésus est descendu, la profondeur de l'amour de Dieu. Tu as été jusque-là, Seigneur. Tu as été jusque-là pour moi, afin de nous arracher du plus profond de notre misère. La crucifixion de Christ, c'est la plus grande preuve de son amour. Est-ce que vous doutez de l'amour de Dieu ? Si ça vous arrive, pensez à la croix. Pensez à la croix. L'Épître aux Romains nous dit cela dans le chapitre 5 et le verset 6. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour des gens dignes, il n'est pas mort pour des gens méritants, il n'est pas mort pour des gens vertueux, il est mort pour des pécheurs. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le texte dit Dieu prouve son amour de cette manière. Il n'y a pas de plus grand amour, dira Jésus quelque part, que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Jésus a été jusque-là. Et puisque je parlais d'abaissement, de profondeur, laissez-moi encore vous lire ce qui est écrit dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 5. Il est dit ceci, « Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu ou dans la condition était celle de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un symptôme, simplement il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous savez, dans le monde, les grands leaders attendent que les gens se sacrifient pour eux. C'est pas vrai? Comme ça, ça se passe. Tous les grands conquérants de l'histoire ont réalisé leur conquête par le sang des autres. Lui, il a conquis nos âmes par son propre sang. Tiens, ça me rappelle ce mot de Napoléon, paraît-il, qui disait « Moi, j'ai bâti un empire sur le sang des autres, il s'est écroulé. Christ a bâti un empire sur son propre sang, il subsiste toujours. » Pas mal, hein? Et c'est vrai, mes amis, et c'est vrai. Jésus est descendu dans ce puits de souffrance. Alors, justement, si vous êtes vous-même dans une situation où vous sentez tellement, tellement en bas, au plus bas que ça, c'est pas possible. Eh bien, souvenez-vous qu'il a la capacité de vous tirer d'affaire. Dans le psaume 130, au verset 1er, eh bien, il y a une parole du psalmiste qui dit « Du fond de l'abîme, je m'adresse à toi ». On va lire le texte très exactement afin de ne pas le citer maladroitement. Voilà ce qui est dit. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Du fond de l'abîme. Peut-être ce matin, au milieu de nous, il y a quelqu'un, chrétien ou pas, converti à Jésus-Christ ou pas encore, pas tout à fait ou même pas du tout, qui est dans, comme dans un abîme, dans un trou sans fond. Eh bien, faites comme le psalmiste. Qui dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, Seigneur, écoute ma voix, et que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si vous en êtes là, il est prêt à vous en faire remonter. Il y a des exemples dans la Bible. J'aime me parler de Jonas. Jonas, au fond de, pas la baleine, mais de ce grand poisson. Lequel poisson était au fond de la mer? Que pouvait-il faire? Plus bas que ça, tu ne peux pas. Il a prié. Et il dira, ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Aussi profondément qu'il soit enfoncé, Dieu l'a entendu et Dieu l'a secouru. Il va faire pour vous la même chose ce matin. Alléluia. Si vous invoquez son nom. On peut parler de Jérémie que l'on avait jeté dans un puits. Et lui aussi a prié. Et il fit providentiellement tirer l'affaire. On pourrait parler de Pierre qui était en prison, là, attendant l'heure de sa mort, puisque le roi Hérode voulait lui régler son compte. On pourrait parler d'Élie au fond de sa caverne. Et tout cela ont invoqué le Seigneur. Et le Seigneur les a arrachés à leur détresse, à leur souffrance. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on se dit, ce coup-ci, je ne m'en sortirai pas. Vous n'avez jamais dit ça? Ça vous est jamais arrivé de dire, mais ça, là je me suis tiré de bien des situations, de bien des sales moments, mais ce coup-là, c'est trop, je n'en sortirai pas. Eh bien, ne vous laissez pas aller à raisonner de cette manière. Comme le psalmiste dit, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel, et tu vas entendre ma prière. Non pas parce que je le mérite. Non pas parce que je suis un chrétien remarquable, non pas parce que j'ai multiplié le nombre de réunions auxquelles j'ai participé, non pas parce que je fais de longues prières, non pas parce que j'ai lu la Bible un tas de fois, non pas parce que je rends témoignage à tous ceux que je croise dans la rue, mais parce que tu es un Dieu qui fait grâce et qui m'aime. Ça, c'est la profondeur de l'amour de Dieu. Et puis, pour terminer notre réflexion à propos de l'amour de Dieu, le texte dit, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il y a un passage dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2, au verset 8, que j'aime beaucoup. Il est écrit ceci, c'est Anne, vous savez, la maman de Samuel, cette femme qui était humiliée parce qu'elle ne pouvait concevoir, et à l'époque, c'était non seulement une douleur pour une femme, mais c'était une honte, c'était le signe qu'il y avait comme une marque divine infamante sur sa vie, et sa rivale, puisque son mari était bigame, la mortifiait, la pourtant à s'irriter contre Dieu de ce qu'elle était stérile, elle ne s'est pas irritée. Elle a prié, Anne, et Dieu a fait grâce. Et elle dira ceci, de la poussière, Il, c'est Dieu. Il retire le pauvre du fumier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et il leur donne en partage un trône de gloire. Ça, c'est l'histoire de notre vie. Alléluia. Vous saviez, nous étions de pauvres, pauvres gens. Même si vous avez 4 sous de côté, laissez-moi vous dire qu'aux yeux de Dieu, sans lui, nous sommes pauvres, infiniment pauvres. Nous étions, je ne veux pas vous offenser, enfoncés dans le bourbier, dans la fange, dans le fumier de notre péché. Mais le texte dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour faire quoi ? Pour les faire soir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. C'est ce que Dieu va faire un jour à notre sujet. Amen. Jésus dans l'Apocalypse nous dit qu'il nous fera asseoir sur son trône comme le Père l'a fait asseoir sur son propre trône. Voyez, cette gloire que le Seigneur connaît, eh bien, deviendra la nôtre. Il nous arrache dans son amour à notre misérable condition. Il nous élève jusqu'à lui au point de nous faire partager sa gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu ? La gloire de Dieu, c'est l'éclat, le rayonnement de ses perfections divines. Sa puissance, son amour, sa sagesse, sa bonté, sa compassion, sa souveraineté. Ben, bref, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, ça c'est sa gloire, voyez ? Eh bien, il veut nous y associer. Déjà, l'apôtre Pierre nous dira que de par notre conversion, nous avons été rendus participants de la nature divine. C'est déjà le cas en partie. Mais ce sera beaucoup plus le cas dans le royaume éternel. Nous partagerons sa gloire. L'amour de Dieu va jusque-là. Il nous prend de notre misérable condition d'infâme pécheur et il nous élève pour nous faire asseoir sur le trône. Alléluia. Vous savez que nous régnerons avec Christ ? C'est écrit, hein ? Des choses qui nous dépassent, des choses qui sont tellement, tellement loin de notre conception, voyez. Quand on pense au ciel, c'est difficile d'imaginer, non, vous ne trouvez pas? Comment on vivra? Comment ça se passera? Mais je crois que ça dépassera tout ce qu'on pourra imaginer. Il nous fera partager sa gloire. Alors, en conclusion, nous arrivons au terme de notre réflexion à propos de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu en 4 dimensions, sa largeur, sa longueur, sa profondeur et sa hauteur. J'attire votre attention une dernière fois sur le passage que nous avons lu en introduction dans Éphésiens chapitre 2. Et Paul conclut ce passage en disant au verset 20, chapitre 3 verset 20, j'aime beaucoup ce verset, « Celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Vous vous rendez compte? Il peut faire, par sa puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, et Dieu sait qu'on en demande beaucoup de choses, et même de ce que nous pensons. Ça veut dire que, du fait de l'amour de Dieu, il est en mesure de dépasser nos plus grandes espérances. Le psaume 103, verset 11, nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Vous savez, quand on regarde l'histoire de Jérémie, j'ai lu le livre de Jérémie ces temps-ci, il en a vu de toutes les couleurs, cet homme, hein ? Vous trouvez pas ? Il était seul ! Dieu lui avait dit « Il ne faut pas que tu te maries, Jérémie !» Tout le peuple était contre lui. Il dira, je suis l'objet de leurs chansons. Je suis le sujet de leurs moqueries. Son seul confident, c'était Dieu. Et il a prophétisé la ruine de Jérusalem. Et comme c'était un homme authentiquement inspiré, ce qu'il avait prophétisé s'est accompli. Alors, après le livre de Jérémie, il y a le livre des Lamentations de Jérémie. En quelque sorte, on pourrait dire que Jérémie a composé ce texte sur les ruines de Jérusalem. Il a vu les horreurs du siège. Il a vu la famine dans la ville, les gens, les enfants qui mouraient de faim. Il nous parle de cela. Il a vu l'épidémie de peste se répandre. Il a vu la ville prise d'assaut.
Les jeunes gens être massacrés par les armées concurrentes. Il a vu tout cela. Il a vu le temple détruit. Il a vu les murailles écrouler. Et dans le chapitre 3, il dit ceci: je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. La fureur de Dieu. Et dans tout le chapitre 3, vous lirez, ça brille pas, hein? Ça brille pas. C'est la désolation. C'est la mort. C'est la catastrophe, c'est la ruine. Le peuple est emmené captif et Jérémie est témoin de tout cela. Il l'avait prophétisé, il l'avait prédit. C'est vrai, même c'est arrivé. Alors il est désespéré, Jérémie, parce que c'est un peuple pécheur, mais malgré tout, c'est son peuple. C'est le peuple de Dieu, il se lamente. Et il dit ceci au verset 19, vous connaissez sûrement ce passage. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, l'amertume, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il est rataplà. Et puis, voici ce qu'il dit. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est pas fini, Jérémie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est la ruine, c'est la défaite, c'est la honte. C'est le massacre, c'est la mort, c'est la famine, c'est la peste. Mais les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Voyez ? Oui, il est abattu. Il est triste, il est accablé d'une manière extrême, mais il y a le sursaut de la foi. C'est pas fini. C'est pas si fini. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voilà ce spectacle désolant que j'ai sous les yeux, qui s'offre à mes regards. Eh bien, je ne veux pas considérer seulement cela. Je veux croire que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors il dit, je veux espérer. Espérer, c'est pas avoir un petit espoir. Ouais, demain ça ira mieux peut-être. Non, c'est une attente confiante. Je veux espérer en lui. Pourquoi? Parce que je suis optimiste de nature. Non. Parce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parce que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous qui peut-être êtes dans une situation difficile, douloureuse à l'extrême, croyez que dans son amour, Dieu vous réserve encore de bonnes surprises. Amen, vous voulez croire ça ce matin? Que Dieu n'en a pas fini avec vous, n'est-ce pas? Que vous n'avez pas, que nous n'avons pas, que je n'ai pas encore épuisé toute la mesure de son amour, de son immense amour. Il est incommensurable, impossible à le décrire dans sa totalité. Il nous dépasse. Seigneur, je veux croire que tu m'aimes. Et parce que je crois que tu m'aimes, je me confie en toi. Je veux espérer en l'Éternel. Amen. Prions le Seigneur quelques instants, voulez-vous? Te louons, Seigneur, parce que ton amour, c'est ce qui...